Vous écoutez, on lit pour vous.
50 ans d'existence au service de l'inclusion. Un texte d'Hugo Beauchamp paru le 12 juin 2024 dans La Liberté au Manitoba. L'organisme à but non lucratif, les PIC de Saint-Malo, célèbre ses 50 ans le 14 juin 2024. L'occasion de rappeler le travail accompli jusqu'ici et les perspectives de l'organisme. Depuis 1974, la mission qui a motivé la création de l'organisme n'a pas changé. Que chaque personne vivant avec une déficience intellectuelle soit traitée avec respect, dignité et acceptée telle qu'elle est en tant qu'individu. L'intitulé de ce mandat est encadré sur le mur du bureau de Danica Honey, gestionnaire des services de soutien de l'EPIC. Elle y travaille depuis 12 ans. On veut promouvoir l'inclusion de ces personnes-là dans la communauté, ajoute-t-elle avant de revenir sur l'une des raisons pour lesquelles l'organisme a vu le jour. Les parents s'inquiétaient de savoir ce qui arriverait à leurs enfants une fois qu'ils quitteraient le système scolaire. Les personnes avec des déficiences intellectuelles ont accès du soutien lorsqu'ils sont à l'école. Mais une fois arrivés à l'âge adulte, cela devient plus délicat d'en trouver, en particulier au rural, souligne Danica Honey. À l'occasion de son 50e anniversaire, l'EPIC organise donc un grand barbecue, avec tout un tas d'activités, un camion de pompiers et notamment des visites guidées des locaux de l'organisme. Il y a beaucoup de gens de Saint-Malo et des alentours qui ne se rendent pas compte de l'ampleur du travail que l'on fait ici. L'occasion de mettre en lumière le travail réalisé, mais pas seulement. Le but numéro un est de célébrer nos participants. Lorsqu'elle parle de participants, Danica Honey parle des 55 personnes qui présentent une déficience intellectuelle et qui travaillent à mi-temps ou à plein temps au sein des différents programmes de l'EPIC. Lors de sa visite à Saint-Malo, la Liberté est arrivée en milieu de matinée, pendant la pause café. Plusieurs personnes étaient sur le stationnement, à prendre l'air et le reste, assis autour d'une table dans le grand réfectoire sur lequel donne la porte d'entrée du bâtiment. Certains des participants, une vingtaine, vivent à Saint-Malo, chez eux, dans des résidences construites par l'EPIC dans le cadre d'un programme de logement. Les autres viennent d'un peu partout aux alentours. « On couvre une zone assez large », indique la gestionnaire des services de soutien. On passe chaque jour les récupérer chez eux, à Saint-Pierre-Joly, Île-des-Chênes ou encore Sainte-Agathe. À l'EPIC, les participants ont la possibilité de travailler, d'apprendre de nouvelles compétences, tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'un soutien physique et moral de la part du personnel de l'organisme. Le site compte 3 départements, le recyclage, la menuiserie et un atelier d'assemblage. Nous avons des contrats avec plusieurs compagnies comme Manitoba Hydro, Bell MTS, Coglands et aussi quelques municipalités. Ces contrats font partie des sources de revenus de l'organisme, tout comme les dons ainsi que le financement de la province. Un projet d'agrandissement. La grande pièce au fond du bâtiment principal sert d'atelier d'assemblage. Une vingtaine de personnes ont la tête penchée vers leurs mains occupées sur les tables. Une participante s'attelle à faire fonctionner l'une des deux machines à coudre. Ici, les participants assemblent et fabriquent une variété de choses. Des appâts de pêche, du matériel de camping, des bouillottes, des vide-poches ou des sacs à main en matière recyclable. Dehors, si on suit le son de la scie à bois, on arrive dans un grand atelier de menuiserie. Casque sur la tête et lunettes de sécurité sur le nez, les participants assemblent de grandes caisses de transport en bois ainsi que des piquets de sondage. Enfin, dans un autre hangar, à quelques pas de l'atelier de menuiserie, un grand tapis de tri et un chariot élévateur transportent des blocs de détritus recyclés qui serviront à certaines compagnies de construction pour l'isolation. Aujourd'hui, la machine semble bien huilée. Mais l'organisme doit malgré tout faire face à quelques défis, notamment un manque de place. Nous recevons des appels chaque semaine pour que des personnes avec une déficience intellectuelle viennent travailler ici, Le besoin est là, alors on aimerait agrandir nos locaux et nos programmes. Toutefois, l'un des chariots élévateurs étant en panne, la priorité est donnée à l'acquisition de matériel. Mais la collecte de fonds a débuté pour entamer le processus d'agrandissement. Ce n'est pas pour tout de suite. On s'en occupera quand on le pourra et quand on sera dans une bonne place. Mais la première étape serait d'acheter un terrain pour pouvoir y construire et agrandir le centre. Cela prendra la forme d'un atelier supplémentaire ou bien d'une nouvelle résidence. Rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant. Le personnel. Et si l'organisme venait à grandir et accueillir davantage de participants, il faudrait aussi que le nombre d'employés suive. Aujourd'hui, en comptant les programmes et les personnes qui travaillent dans les bureaux, nous sommes à peu près 80. Tu n'as pas besoin de formation spéciale pour travailler ici. On forme tout notre personnel. Mais ça prend du monde. On a besoin de personnel 24 heures sur 24 pour travailler dans nos maisons, des équipes de nuit. On a besoin de monde, répète-t-elle. Il faut dire que le personnel est aussi là pour apporter un accompagnement aux participants. Et nul besoin de souligner que chaque profil est différent, au même titre que leurs besoins. On s'adapte aux besoins, qui varient beaucoup, des personnes qui vivent avec nous. Certains ont des besoins au sujet de l'hygiène, d'autres ont besoin d'aide pour se nourrir. Parfois, il faut aider avec le comportement. Il y a des profils plus compliqués que d'autres. Aujourd'hui, l'EPIC aimerait recruter 5 personnes de plus à temps partiel pour le programme de résidence. À noter que s'il s'agit bel et bien d'un organisme bilingue, cela n'est pas nécessairement un critère de recrutement. C'est encouragé, bien sûr, mais étant au rural, nous avons déjà des difficultés à recruter, alors tous les profils nous intéressent. La communauté de Saint-Malo a vraiment été accueillante et chaleureuse au cours des 50 dernières années. Un soutien de la communauté qui n'est pas sans importance pour les participants des différents programmes de l'organisme, comme le fait valoir Danica Honey. Ils font souvent des marches. C'est une activité qui fait partie de leur routine. Ils voient les personnes dans le village qui les accueillent toujours avec des sourires, et c'est vraiment positif. On sent que nous sommes les bienvenus, que nous sommes soutenus. Et alors que l'EPIC espère entamer l'année prochaine avec un budget de 5 millions de dollars, la soirée se poursuivra avec un dîner de levée de fonds qui serviront à assurer que l'EPIC de Saint-Malo poursuive sa mission pour, pourquoi pas, 50 ans de plus. C'était 50 ans d'existence au service de l'inclusion, un texte d'Hugo Beauchamp paru le 12 juin 2024 dans La Liberté au Manitoba.
Perte de culture dans le Sud pour les enfants du Nord. Un texte de Jessica Nadeau paru le 25 mai 2024 dans Le Devoir. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, a ouvert plusieurs enquêtes individuelles sur le placement d'enfants inuits dans des familles allochtones du sud du Québec et constate que les plans culturels ne sont pas toujours adéquats. Dans son dernier bilan sur la situation de la DPJ au Nunavik, la CDPDJ rapportait que parmi tous les enfants placés en famille d'accueil, 36% étaient placés hors du Nunavik. De ce nombre, 93% se retrouvent dans des familles allochtones. Sur le territoire, 76% des placements des jeunes se font dans des familles inuites. La Régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik, RRSSSN, indique pour sa part que, malgré la hausse globale des placements ces dernières années, le nombre de placements dans le Sud n'a augmenté que de 1% contre 16% sur le territoire. Ceci traduit les efforts pour maintenir le plus possible les enfants inuits dans leur communauté culturelle, explique la Régie. Elle assure que le placement d'un enfant dans une famille allochtone du sud de la province constitue une option de dernier recours et que ce n'est que dans de très rares situations que les enfants sont placés directement au sud, des placements qui s'avèrent parfois nécessaires pour permettre de réunir une fratrie ou pour répondre aux besoins d'un enfant nécessitant des soins spécifiques. Le manque de familles d'accueil et les conditions de vie difficiles au Nunavik sont également évoqués, tant par la régie régionale que par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pour expliquer le placement dans des familles allochtones du sud du Québec. Plan culturel déficient. Malgré les lois et les protocoles de la DPJ qui visent le maintien des liens avec la culture et la communauté, le placement dans le sud engendre nécessairement une rupture, constate Maître Suzanne Arpin, vice-présidente jeunesse de la CDPDJ, en entrevue au Devoir. En matière de préservation de culture, il y a vraiment un problème. Elle constate des difficultés dans la mise en application des plans culturels pour préserver l'héritage des enfants. Dans certains cas, les plans culturels sont carrément déficients. On va voir, par exemple, des dossiers d'enfants déplacés vers le sud où il n'y a pas eu de sécurisation culturelle, pas de contact avec la famille, où le plan d'intervention spécialisé ne parle pas de comment les contacts vont se faire avec la famille. La solution, selon elle, est d'éviter que les jeunes quittent le Nunavik en donnant à la population locale la possibilité de mettre en place des structures pour garder les enfants dans le Nord. Le fait d'envoyer un enfant dans le Sud, c'est vraiment de le déraciner, dit-elle. C'est un traumatisme incroyable. Nouvelle mouture des pensionnats pour autochtones. Dans son rapport sur la cour itinérante au Nunavik en 2022, l'avocat à la retraite Jean-Claude Latraverse faisait sensiblement le même constat. Il écrit que l'acculturation de ces enfants est réelle et que les répercussions peuvent être dramatiques. Il parle d'adolescents pris entre deux cultures qui ont perdu la langue et pour qui le retour dans le Nord, une fois que la DPJ sort de leur vie, s'avère difficile, voire impossible. Est-ce une nouvelle mouture des pensionnats pour autochtones? Ajoute-t-il. En entrevue au Devoir, Maître Latraverse nuance un peu, évoquant le fait qu'il y a quand même de beaux exemples de placements dans le Sud. C'est délicat de dire que ça ne devrait pas exister, affirme-t-il, ajoutant que c'est toute la prémisse qui mène au placement sous la protection de la jeunesse qui est problématique au nord du 55e parallèle. C'était Perte de culture dans le Sud pour les enfants du Nord, un texte de Jessica Nadeau paru le 25 mai 2024 dans Le Devoir.
Omaira Issa, une jeune leader mondiale, une entrevue réalisée par Léane Tremblay, parue le 7 mai 2024 dans L'Eau vive, en Saskatchewan. Le Forum national économique a récemment annoncé une nouvelle cohorte de jeunes leaders mondiaux. Parmi les 80 nouveaux élus figure la journaliste franc-saskoise Omaira Issa, connue pour ses reportages à Radio-Canada, notamment Black on the Prairies, en poste depuis le début de l'année à la chaîne d'affaires publiques par câble, CPAC, à Ottawa. La jeune femme fait porter sa voix singulière par-delà les frontières. En quoi consiste le rôle d'un jeune leader mondial? Les jeunes leaders mondiaux sont des gens de moins de 40 ans qui sont sélectionnés sur la base de contributions qu'ils ont faites dans leur communauté ou dans leur pays. Les jeunes viennent de plusieurs domaines, comme la technologie, la santé ou la politique. Ils visent à trouver des solutions à de grands problèmes et à promouvoir les valeurs du Forum économique mondial, c'est-à-dire respecter la diversité et l'inclusivité dans le monde. Pour vous, que représente ce titre? Toutes les reconnaissances que j'ai reçues me rendent très humble. Pour moi, le titre de jeune leader mondial signifie une reconnaissance du travail que je fais depuis très longtemps au sein du Canada. J'ai longtemps travaillé en Saskatchewan et dans l'Ouest canadien. En plus, tous les efforts que je fais au niveau international sont reconnus. Donc, cette nomination est une fierté. mais ça me rend très, très humble également. Selon le Forum économique mondial, un jeune leader s'engage à façonner un avenir plus inclusif et plus durable. Comment y parvenir, selon vous? Cette question est vraiment au cœur de tout ce que je fais. Je pense que l'inclusion commence déjà par la reconnaissance que la diversité est une richesse. Beaucoup de gens ne pensent pas à cette question-là, mais moi j'y pense depuis toujours, et tous les jours. Ça fait des années que je fais des efforts comme journaliste pour que notre industrie soit plus inclusive. L'inclusion, ça veut dire également chercher à avoir de l'équité. Tout le monde fait face à de grands défis en ce moment, que ce soit au niveau de la démocratie, des droits de la personne, des défis ethnoculturels, de la préservation de la langue, de la réconciliation avec les autochtones, du changement climatique et de l'immigration. Je crois qu'il y a des manières de bâtir des ponts entre nous pour faire face à ces grands défis. Je pense que ça passe beaucoup par le dialogue entre les gens, dans les écoles, les institutions, les églises, les mosquées, les synagogues, les cercles d'amis, les centres communautaires et en famille autour de la table. Chacun a une pierre à ajouter. Vous avez immigré en Saskatchewan en 2006. Comment pensez-vous que la Saskatchewan en particulier pourrait devenir plus inclusive et plus durable? Premièrement, je suis très fière d'être fransaskoise. Toutes les institutions fransaskoises me tiennent beaucoup à cœur. J'ai immigré en Saskatchewan à l'âge de 16 ans. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres élèves immigrants à l'École canadienne-française de Saskatoon. Après le secondaire, je suis allée à l'Université de l'Alberta, au campus Saint-Jean, pendant 6 ans. Lorsque je suis revenue à Saskatoon, j'ai vu que les visages à l'école avaient complètement changé. Il y avait des jeunes de tous les coins du monde, et les enseignants aussi. Ça m'a beaucoup inspirée. Ça m'a donné énormément d'espoir. L'inclusion est un projet à long terme auquel tout le monde doit contribuer. Il est fort probable que les résultats se verront dans les 20 ou 30 prochaines années. Beaucoup de gens font cet effort et je salue leur travail. Black on the Prairies, un projet que vous avez réalisé avec CBC, explore les expériences et l'histoire des Noirs dans les prairies. De quelle façon ce projet a-t-il contribué à votre carrière? Ce projet a changé ma vie. Ça m'a donné une audience de plus d'1 million de personnes. Ça a aussi permis à tous les Canadiens de comprendre qu'il y a une histoire riche qu'on partage, nous tous, et pas juste des personnes noires dans les prairies. C'est une histoire canadienne. Je suis aussi fière que ça ait donné de la fierté à beaucoup de personnes noires dans les prairies. On a amélioré la compréhension des Canadiens par rapport à leur propre histoire et on a créé du dialogue. Quelle répercussion a eu ce projet? Quand je suis arrivée en Saskatchewan, personne ne m'a parlé des contributions des personnes noires, ni au secondaire, ni à l'université. Ça ne faisait absolument pas partie du curriculum. Grâce à Black on the Prairies, c'est maintenant inclus dans le curriculum de la province. On a créé un guide pédagogique pour les élèves de la maternelle à la 12e année dans les 2 langues officielles, disponible à travers tout le Canada. Je suis fière de voir, quand je vais dans les écoles, des jeunes en train d'apprendre cette histoire-là. De quelle façon comptez-vous contribuer en tant que jeune leader mondial? J'espère apporter un point de vue différent. Je suis journaliste depuis 11 ans maintenant. J'ai parcouru le Canada pour parler à des Canadiens dans différentes communautés, que ce soit des fermiers, des enseignants, des médecins, des citoyens de tous les jours. J'ai une compréhension très unique du Canada. Et le fait que je travaille aussi à l'international me permet d'avoir une vision très nuancée du monde et des enjeux. Je crois que ma perspective comme journaliste est très enrichie par les reportages que je fais et j'espère apporter cette richesse-là autour de la table. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui, comme vous, aimeraient changer le monde? Rêvez grand et ayez une passion. Des personnes ne vont pas comprendre, vont vous remettre en cause ou douter de vous, mais persistez, malgré toute la négativité. C'est très important de savoir qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Passez du temps à réfléchir à vos valeurs. Osez rêver, soyez persistant et faites en sorte que votre rêve contribue à l'amélioration de notre monde. C'était Omaira Issa, une jeune leader mondiale, une entrevue réalisée par Léane Tremblay, parue le 7 mai 2024 dans L'Eau vive en Saskatchewan.
Je questionnaire. Comment agir lorsqu'un AVC survient? Un texte d'information paru le 8 juin 2024 dans la presse. 1er juillet 2016, 3 heures du matin. Pendant ses vacances, l'animatrice Josée Boudreau s'éveille dans sa chambre d'hôtel, confuse et incapable de parler. Son conjoint, Louis-Philippe Rivard, reconnaît les signes d'un AVC et réagit rapidement en appelant le 911. Au Canada, ce genre d'événement est fréquent. Un AVC survient toutes les 5 minutes. Sauriez-vous quoi faire si cela vous arrivait? Ces deux porte-paroles de la campagne sur les signes de l'AVC de cœur plus AVC vous invitent à tester vos connaissances. 1. Quel acronyme permet de reconnaître les signes d'un AVC? Vite, FAST. L'acronyme internationalement reconnu, FAST, Face, Arm, Speech et Time, a été adapté en plusieurs langues. Au Canada français, c'est VITE. V pour visage, est-il affaissé? I pour incapacité à lever les deux bras normalement. T pour trouble de parole, trouble de la prononciation. E pour extrême urgence, composer le 911. La présence d'un seul de ces signes représente une urgence et nécessite une intervention médicale immédiate. Je me suis souvenu de la publicité de Cœur plus AVC et j'ai reconnu tous les signes en quelques secondes. Josée avait un côté du visage affaissé, son corps était paralysé d'un côté et elle était incapable de parler. Il fallait faire vite, se souvient Louis-Philippe Rivard. 2. Qu'est-ce qu'un AVC? Une interruption du flux sanguin vers une partie du cerveau. Une interruption du flux sanguin vers une partie du cœur. La majorité des AVC surviennent lorsqu'un caillot obstrue la circulation sanguine au cerveau. Il s'agit de l'AVC ischémique. Quand il y a une rupture d'une artère au cerveau, l'AVC est plutôt de type hémorragique. J'avais une phlébite à une jambe et le caillot est passé dans une malformation au cœur qui est présente chez 10 à 15 % de la population. Il est ensuite remonté jusqu'au cerveau et a provoqué un AVC ischémique, nous dit Josée Boudreau. 3. L'AVC est une extrême urgence. Quelle est la première chose à faire après avoir reconnu un des signes? Appeler le 911, conduire directement jusqu'à l'hôpital. Que vous soyez témoin ou victime d'un AVC, ne conduisez pas jusqu'à l'hôpital. Dès que vous aurez composé le 911, le personnel du système de santé s'activera et les ambulanciers pourront assurer le transport vers l'hôpital le plus proche, offrant les meilleurs soins en cas d'AVC. Chaque seconde compte, car les traitements vitaux doivent être administrés le plus rapidement possible dans les heures suivant le début de l'AVC afin de rétablir le flux sanguin vers le cerveau. On a été chanceux d'être à 10 minutes d'un hôpital de recherche. Des tests ont été faits directement dans l'ambulance et à notre arrivée, le médecin était déjà prêt pour l'opération, se souvient Josée Boudreau. 4. Pendant un AVC, 1,9 million de cellules cérébrales meurent chaque heure, minutes, ça ne laisse aucun temps pour hésiter, pour s'inquiéter de déranger les voisins ou même pour négocier avec la personne présentant les signes d'un AVC. Il faut appeler le 911 immédiatement afin d'obtenir des soins d'urgence pouvant faire la différence entre la vie et la mort ou entre un meilleur établissement et une invalidité durable. C'est vous qui êtes en charge, pas la personne qui subit un AVC. Faites la bonne chose maintenant pour pouvoir vous chicaner plus tard, souligne Louis-Philippe Rivard. 5. Environ une personne sur deux, née au Canada, 48%, peut nommer au moins deux signes de l'AVC. Quelle est cette proportion chez les nouveaux arrivants? Environ une personne sur quatre? Environ une personne sur six? Les nouveaux arrivants sont souvent moins outillés pour reconnaître un AVC et appeler le 911. À peine 17% d'entre eux parviennent à nommer deux signes de l'acronyme VITE et 61% n'en connaissent aucun. Ça peut arriver qu'on soit jeune ou moins jeune et peu importe d'où on vient. Parce qu'on a tous un cerveau, rappelle Louis-Philippe Rivard. 6. Quel est le plus important facteur de risque de l'AVC? L'hypertension? Le tabagisme? Au fil des années, une pression artérielle qui demeure élevée fragilise les vaisseaux sanguins et augmente le risque de lésions, une cause fréquente d'AVC. À noter que certaines populations sont plus à risque de souffrir d'hypertension artérielle. C'est notamment le cas des personnes d'origine africaine ou sud-asiatique. D'autres facteurs de risque courants sont aussi à considérer, comme le tabagisme, l'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie, la fibrillation auriculaire, la sédentarité et une alimentation pauvre en fruits et légumes. José était dans la quarantaine, en pleine forme. Elle s'entraînait plusieurs fois par semaine. On ne sait jamais à qui un AVC peut arriver, évoque Louis-Philippe Rivard. Par contre, on peut bien faire les choses et appeler le 911 vite, 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 dit José Boudreau. C'était Je questionnaire, comment agir lorsqu'un AVC survient? Un texte commandité paru le 8 juin 2024 dans La Presse.